La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette midinale du
22 novembre 2021.
Voilà, donc on n'est pas très nombreux aujourd'hui autour des micros, mais on devrait s'en sortir quand même, donc pour cette midinale sur Radio Piquet, hein, toutes les semaines, le lundi, midi, 14h, avec Pedro pour son deuxième jour de stage technique.
Qui démarre mal, mais bonjour à tous.
Ça, c'était déjà un peu mieux que la semaine dernière, au moins il n'y a pas eu le blanc de 30 secondes. Bon, il a raté le générique en plein milieu, mais ça va venir, il progresse. On est en présence de Nico.
Bonjour.
Salut Nico.
Salut.
Et moi c'est Seb, voilà, donc salut. Donc on va commencer cette midinale avec, des gens qu'on va joindre au téléphone. Alors qui sont ces gens? On va appeler Marc et Mahamadou. Marc qui fait partie d'une coopérative, je crois, qui s'appelle Énergie Réfléchie, qui est une entreprise d'installation de panneaux solaires. Il va nous en dire plus autour de Châteauneuf du Fou, et sur une problématique où ils ont eu un jeune qui s'appelle Mahamadou, voilà, qui a fait 3 stages avec eux pendant son CAP, qui est malheureusement sans papier, il me semble, et dont la préfecture pose des problèmes, ne veut pas lui délivrer de titre de séjour, alors que Marc et son entreprise souhaitent l'embaucher. Donc ça pose problème, ça bloque le dossier. Depuis, je crois que Mahamadou a aussi reçu une QTF. Donc voilà, de belles choses dans cet hexagone. Donc on va essayer de les joindre maintenant.
Ouais.
Donc allô Marc et Mahamadou, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour, nous vous entendons.
Bon.
Donc, c'est Marc.
Ok, ça va, ça vous, au niveau du son, c'est pas trop fort?
Très bien pour nous.
Ben nous, ça a l'air bien aussi, il me semble.
Ça a l'air pas trop mal.
Bon, eh ben, on va commencer. Ben, dis-nous en plus, Marc, je pense que t'es mieux placé pour nous présenter la problématique.
Oui, alors, je suis Marc, électricien et accessoirement gérant de cette société coopérative ouvrière de production, Énergie Réfléchie, basée du côté de Châteauneuf, ouais, à l'AD. Et donc, effectivement, on a eu Mahamadou durant 3 stages, en 2018, 2019 et cette année. C'était des stages qui se faisaient à la suite de son cursus pour le bac pro au bâtiment des lycées, des métiers de Plébin. Voilà, donc ces stages se sont bien déroulés. Donc on connaissait sa situation qui va sans doute vous présenter. Et donc là, on a une problématique, c'est que on aimerait bien embaucher Mahamadou. Mais on ne peut pas, puisque Mahamadou n'existe pas. Voilà, il n'existe pas malgré les demandes qu'il a dû faire auprès de la préfecture. Donc, Mahamadou peut expliquer son parcours? Si vous voulez, ça sera...
Bah avec plaisir, ouais.
Bonjour.
Bonjour Mahamadou.
Bonjour.
J'étais arrivé en France en novembre 2016, j'avais 15 ans. Donc j'ai suivi une formation scolaire donc au lycée des métiers du bâtiment de Plébin, à bac-pro technicien en installation de systèmes énergétiques. Après mes stages, après ma formation, donc pendant mes périodes scolaires, j'ai passé plusieurs périodes de stage avec Énergie Réfléchie. Donc ils ont voulu m'embaucher. Parce que tous mes stages ils sont déroulés très bien avec eux. Donc, mais le problème, c'est la préfecture qui bloque au mois de novembre. Novembre 2019, j'ai eu un OQTF qui s'est terminé en novembre 2020. Donc, depuis la fin 2020, donc on a commencé les démarches on a sollicité rendez-vous auprès de la préfecture pour obtenir un titre de séjour. Ensuite, pouvoir être embauché par Énergie Réfléchie.
Bien. Alors, Mamadou, une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Tu l'as eu en novembre 2019, c'est ça?
Oui, 29 novembre 2019.
Mais avant, ta situation, c'était laquelle? Tu avais un permis de séjour avant ou pas?
J'ai jamais eu un permis de séjour. J'avais un récépissé, donc qui est renouvelable un mois, des fois deux mois, trois mois, comme ça, mais jamais eu autorisation de travail.
D'accord, tu n'as jamais eu de permis de séjour, jamais eu d'autorisation de travail,
oui.
Et malgré des démarches, je suppose.
Oui, malgré les démarches.
Et cette OQTF, tu l'as eu quand tu es passé majeur ou c'est à quel moment ils l'ont déclenché?
Oui, c'est ça.
Et en fin de compte, le système fait qu'on ne les laisse jamais tranquilles, hein, puisque, comme ils le disent, tous les mois ou les deux mois ou les trois mois, il faut revenir à la préfecture, refaire les papiers. Donc déjà, il n'y a pas de perspective d'avenir. Et donc, nous, on a fait une demande d'embauche en remplissant des papiers et en les envoyant à la directe, qui est la direction du travail, mais ça ne se fait plus à la directe. Maintenant, c'est la préfecture qui gère. C'est facile, comme ça, c'est directement sous le ministère de l'Intérieur.
Ouais.
C'est facile à tenir. Eh bien, il n'y a pas de son, pas d'image. Ils sont tout juste, ils ne sont pas obligés de répondre. Donc, on a besoin de faire des actions comme en ce moment. Notamment, il y a une pétition pour Mahamadou pour que la préfecture réponde, qu'elle dise oui ou non et pourquoi. Puisque nous, on veut recruter, on a quelqu'un qui fait l'affaire et on ne peut pas. Et je ne sais pas si la préfecture ou le préfet, il sort un petit peu, mais partout, il y a des panneaux recrute, recrute, recrute. Donc, il faut qu'on nous explique. Peut-être que Mahamadou n'est pas la personne que la France aimerait voir venir chez elle. Poser des questions.
Ouais,
et si oui, pourquoi? Pourquoi? Expliquez-nous.
Au discours de Darmanin, on comprend bien que ils veulent pas embaucher des gens comme Mahamadou, quoi. C'est un peu le problème.
On fait tout pour complexifier la démarche.
Ouais.
C'est-à-dire que au niveau de la préfecture, j'imagine qu'il n'y a pas le personnel pour suivre. Ah oui, c'est tant que il y a personne pour suivre, les délais sont longs, et puis entre temps, le sort de Mahamadou, là, c'est jusqu'à la fin de l'année, il a un logement qui est prêté par l'ASE, c'est ça, Mahamadou?
Oui.
Donc, et il fait quoi à la fin de l'année? Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? À la rue?
Ouais.
Comment on fait, là? Enfin, c'est vraiment lamentable, quoi. Nous, tout simplement, on a fait des papiers pour demander à embaucher Mahamadou.
Et là, niveau préfecture, personne ne vous répond, quoi?
Non, là, il commence à répondre un petit peu, hein, comme quoi il faut... Alors là, depuis la fin de semaine dernière, il faut qu'on remplisse une nouvelle demande puisqu'elle serait incomplète. Bon, donc on estime que ça va quand même dans le bon sens qu'ils commencent à nous répondre.
Ouais.
Mais les papiers sont prêts, ils vont partir. C'est une gestion à la petite semaine, quoi. C'est-à-dire que on ne sait pas quel va être le sort de Mahamadou, mais après pour les autres, c'est comment? Il va falloir que tout le monde fasse comme ça. C'est pas normal, il n'y a pas de politique d'intégration, aucune.
Non,
aucune. On est dans le bâtiment à rechercher quelqu'un qui en veut. On a eu plusieurs stagiaires, on a le recul nécessaire pour dire que Mahamadou, il en veut, il est vraiment volontaire. Il est noir. Il est migrant. On ne peut pas lui faire des papiers. Alors il est prêt à payer des impôts, hein, et des cotisations, il n'y a pas de souci.
Oui,
et
oui,
donc,
puis après.
C'est compliqué, il faut se battre et c'est pas normal. C'est pas normal, on n'a pas que ça à faire. Et donc, c'est une défaillance de l'État, quoi.
Bah oui,
une défaillance
ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que, excuse-moi de te couper, mais ce qui est d'autant plus surprenant en plus, c'est que Mahamadou a quand même été formé dans les institutions françaises, quoi. Un CAP, c'est quand même pris en charge par l'État. Et donc, on forme des gens. Et après, on veut les renvoyer chez eux et ne pas pouvoir les faire travailler sur le territoire. Moi, je trouve ça complètement hallucinant.
Voilà, on investit, c'est bien, on investit en l'humain, c'est bien. Mais si on met de l'argent, il faut peut-être mettre à profit, je dirais, ses dépenses. Si la personne est formée, bah, il a travaillé quand même. C'est un monde.
Ouais, ouais.
C'est un monde. On lui dit, il y a le Covid là, c'est le bordel. Voilà, il y a du chômage, mais il y a des gens qui veulent travailler. On peut les faire travailler, s'il vous plaît. Excusez-nous.
Ouais.
Enfin, c'est ubuesque et on parle d'humain. On parle d'humain. Voilà comment on traite les humains.
Ouais, puis voilà, économiquement, c'est assez hallucinant, mais même humainement, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, pendant toute sa formation, quelque part, on promet un avenir à Mamadou en France, et tout ça pour après lui couper l'herbe sous le pied et lui dire, bah non, en fait, on veut pas de toi, quoi. Moi, je trouve ça, donc, économiquement, c'est pas bien vu, mais humainement, c'est un grand scandale, quoi.
Oui, tout à fait, c'est un scandale. Humainement, c'est lamentable d'être toujours sur qui vive et de se dire, quel est mon avenir? Alors que il essaie de s'en créer un en France. Oui, tout à fait. Heureusement, il est suivi par une association. Et le nom de l'association, Mamadou.
Accueil des réfugiés du Cap.
Accueil des réfugiés du Cap. Et vraiment qui démène pour faire en sorte que Mamadou et d'autres aient un avenir chez nous, quoi.
Et alors, tu parlais d'une pétition, parce que moi, je me dis, bon, maintenant, comment nous, on pourrait, transmettre, aider, je sais pas. Tu parlais d'une pétition, c'est une pétition en ligne ou à l'écrit, ça?
En ligne.
C'est une pétition en ligne, ouais, sur change.org.
D'accord.
Et donc, bon, en tapant Mamadou, le travailler, on va certainement trouver cette pétition.
D'accord.
Et pour les autres, parce qu'il y en a plein de gens qui sont dans son cas, ils peuvent nous contacter aussi s'ils veulent connaître un peu les démarches à faire, parce que chacun est sur son point et je comprends que c'est compliqué, mais il faut que les employeurs s'investissent et fassent du bruit, parce que c'est pas normal, enfin c'est honteux, il n'y a pas d'autre mot, c'est honteux par rapport si j'ai un peu de temps là, j'écoutais un sénateur qui essaie de déposer une loi comme quoi les gens comme Mamadou qui ont suivi un cursus qu'on leur donne au moins un titre de séjour pour pouvoir travailler et la réponse de Schiappa là c'était oui alors on a mis 10 millions d'euros telle année, là on a mis 20 millions, là on a ouvert des lits, là ceci cela, mais c'est pas ça qu'on veut. Arrête de dire de ce que tu as fait, il faut faire. Il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas invisibles, ce sont des êtres humains. Faut les prendre en compte.
Ouais, on est tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Bah écoute, déjà la pétition, ce qu'on va faire, on va sûrement la retrouver. Si on la retrouve pas, on te contactera pour que tu nous envoies le lien. Nous, je pense qu'on va la partager sur notre site, histoire de faire bouger, ouais. De la faire tourner dans nos réseaux. Déjà, ça, c'est ce qu'on peut faire à notre niveau. Puis suivre le dossier aussi. N'hésitez pas par la suite à nous tenir informés des différents avancements.
D'accord.
Je sais pas si peut-être qu'un jour, faudra prévoir avec les réseaux autour de Châteauneuf. C'est la préfecture de Quimper qui bloque, non?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Et alors, Marc, moi, j'ai une question parce que bon, en fait, le cas de Mamadou, malheureusement, il y en a plein d'autres, quoi, dans sa situation, qui ont des OQTF et qui parfois même finissent dans des CRA.
Oui.
Une des solutions, c'est le combat mené par les collectifs de sans-papiers. Je ne sais pas si vous êtes en lien avec des collectifs de sans-papiers qui ont des avocats, etc.
Non, je sais que l'association qui suit Mamadou a un avocat pour faire avancer aussi son cas.
Ok.
Pour dialoguer avec la préfecture. Mais nous, on n'a pas contacté dans les associations de sans-papiers. Ce sera assez à faire.
Ouais, je pense que c'est à faire. Comme ça, ça crée de la solidarité, en fait, entre les gens qui sont dans la même situation. Mais si vous voulez, on se contacte plus tard et on peut vous donner des contacts de collectifs de sans-papiers.
Oui, ça marche. Avec plaisir.
On fera ça.
Oui.
Et on continue à être en lien et puis à suivre la situation.
D'accord, merci.
Moi, j'avais une dernière question.
Pour discuter du cas de Mamadou.
Ouais.
Et Mamadou, t'as quelque chose à dire, non? Non, bon, ok.
Moi, j'avais juste une dernière question. Est-ce que vous avez saisi des politiques de ce genre de problème, genre le député
Tout à fait, tout à fait. Nous en avons un qui est bien connu, qui a un fauteuil doré, là, Richard Ferrand. Ah, ouais. Il est quand même président de l'Assemblée nationale.
Ouais.
Donc, donc son attaché parlementaire a eu le courrier, hein, puisque c'est filtré. Donc, sur la pétition, elle est destinée à nos élus, là, qui représentent le peuple. Oui, tout à fait.
Mais vous, de votre côté, aucun retour officiel, quoi.
Pas d'image.
Ouais, j'imagine que Richard Ferrand, hein, il n'est pas prêt de répondre.
Non, mais il pourrait aussi, enfin, à un moment, quand on te vend l'intégration par le travail et toutes ces conneries là, qu'ils nous vendent sur tous les plateaux télé.
Et puis, il a quand même transmis dernièrement un bilan de ces 4 ans-là en tant que député de sa circonscription. Hein. Donc, j'invite tout le monde à le lire parce que voilà le bilan. Et nous, ce qu'on demande, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Rien. Ces gens sont invisibles. Les gens comme Mamadou sont invisibles. Voilà.
Bon, on va essayer de donner un peu de visibilité à Mamadou et puis aux autres, hein, qui peuvent être dans la même situation. En tout cas, n'hésitez pas à nous transmettre l'avancement du dossier, de son cas. C'est pareil pour la fin de l'année, si on peut vous mettre en contact, ça peut arriver pour qu'il puisse trouver un logement pour la suite, quoi. Oui, et ça aussi, ça, c'est une urgence.
Oui, bien sûr, oui. Donc, c'est enregistré.
Ok. Bon, et ben. J'ai envie de dire merci beaucoup, Marc et Mamadou, d'être venus témoigner de cette histoire. On est de tout cœur avec vous. Et on partage tout ce qu'on peut de notre côté. Et on va porter cette parole, quoi. Et
on reste en lien. Ouais. Et je vous invite à écouter notre émission, parce que ça va être en rapport direct avec votre histoire. Parce que là, on va parler de France-Afrique. Et de politique néocoloniale de l'État français.
Avec l'Agence française de développement.
Voilà. Avec cet outil néocolonial bien exemplaire. Hein. Soi-disant, on aide les pays d'Afrique à se développer. Mais en fait, on aide surtout les grosses multinationales à faire du business en France.
Ouais, tout à fait. Je vois bien le sujet. Et merci à vous, hein, de nous avoir donné la parole.
Ouais, mais c'est normal.
Le cas très local donc, de Mamadou et de bien d'autres. Et puis, bonne lutte, bonne continuation aussi avec votre radio.
Ouais, merci, mais merci, surtout bon courage à vous, quoi. Parce qu'on souhaite ça aboutisse quand même tout ça, quoi.
On a du courage, on est déterminé.
Bon, faut pas lâcher, c'est bien.
Voilà, ne lâchons rien.
Ne lâchons rien, surtout pas. Bon, merci à vous. On vous souhaite déjà une bonne fin de journée.
Et très bien, merci vous aussi.
Et à bientôt, on est en contact.
Ok, ça marche. Merci, au revoir.
Au revoir, ouais, salut. Ciao.
Eh bien, donc, on va enchaîner. Et du coup, on va enchaîner par un dossier autour du Rwanda et autour du génocide des Tutsis. On en a déjà causé ici, on va encore recauser parce que c'est d'actualité et parce que c'est une question beaucoup plus globale sur la politique française, dans quel monde on vit en fait. Voilà. Pourquoi on en parle? Parce que, on l'a déjà dit, c'est le génocide des Tutsis, dernier génocide du XXe siècle. Il y a une implication directe de l'État français dans la réalisation de ce génocide. Hein. On parle d'un génocide. C'est-à-dire l'extermination voulue, planifiée d'un groupe d'êtres humains ou d'une grande partie de ce groupe au nom d'une soi-disant appartenance à une race, à une ethnie, à une religion. Donc c'est quand même quelque chose de très 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 lourd, très très grave de quoi on parle. L'État français est impliqué jusqu'au cou dans le dernier génocide du XXe siècle. Il y a eu 3 génocides dans le XXe siècle reconnus officiellement par les États, par la communauté internationale. Le génocide des Arméniens en 1915, le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, exterminé par les nazis, et le troisième, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. 2 rapports sont sortis cette année, on en a déjà parlé, un rapport commandé par l'État français, par Macron, le rapport Duclert, qui a fait un grand pas d'une certaine manière puisqu'il affirme que l'État français a des responsabilités lourdes et accablantes dans la réalisation de ce génocide, dans le soutien apporté au régime génocidaire. C'est très très important. C'est un moment très important. L'État français reconnaît officiellement des responsabilités lourdes et accablantes. On va voir qu'il y a des limites, on va voir qu'il y a des critiques. Le deuxième rapport qui est sorti, c'est un rapport commandé là par le Rwanda, par l'État rwandais, qui, grosso modo, conclut dans le même sens. Mais le combat à venir, en fait, c'est celui de la complicité ou pas de l'État français. Cette notion de complicité, on va y revenir parce qu'elle est très très complexe. Il n'y a pas d'opinion personnelle, en fait, sur cette notion de complicité d'un génocide. Là, on parle de droit, on va revenir sur les définitions. Les opinions personnelles n'ont rien à voir là-dedans. La commission Duclair dit il y a des responsabilités accablantes et lourdes, mais il n'y a pas de complicité. En s'appuyant sur une certaine définition de la complicité qui n'est pas la définition juridique. On leur avait pas demandé de se prononcer sur la complicité. Ils se prononcent parce que c'est une commande politique. On y reviendra. Le rapport MUSE, le rapport de l'État rwandais, se prononce aussi sur cette notion-là d'une certaine manière, en ne concluant pas sur une complicité, mais on va revenir. Il y a une phrase de conclusion dans le rapport qui, en fait, valide l'implication énorme de l'État français. Du coup, on va revenir clairement sur qu'est-ce qu'on entend par complicité de génocide. On va partir d'un premier texte, un article de François Robinet, qui est un historien, qui a sorti un article cet automne, là, dans la revue Mémoire en jeu, qui s'appelle France Rwanda face à l'histoire. Je laisse la parole à Franklin pour le présenter. Ça te va ?
Oui, ces rapports, il y a beaucoup de choses là-dessus. Pour ne pas aller très loin, ces rapports dits de Clerc, c'est un rapport qui est sorti vendredi le 26 mars dernier par Vincent de Clerc, qui était le président de la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis 1990-94, qui présente les résultats de des années de travail. Mais ce qui est un peu, déjà on est dans le vif du dossier, dans les rapports du déclin. Il y a beaucoup de choses là-dedans, puisque quand le rapport de Clerc dit qu'il semble, ni dans la commission, l'État français ne sont parvenus à ce jour sur la question, sur la responsabilité, mais il dit encore, tout en parlant de responsabilités lourdes, accablantes, et faisant leur examen et considération après des responsabilités politiques et ainsi de suite, ne se prononce pas sur la responsabilité réelle de l'État français. Donc, quelque part, c'est une commission commanditée, organisée et financée par le président Macron. Donc, qui nie quelque part et s'est contredit. Il dit sur la responsabilité lourde et accablante de la France, quelque part aussi, il nie, il s'est contredit. Quelque part aussi, quand il dit que nous ne sommes pas juristes, ce n'est pas à nous prononcer sur la complicité, mais comme on va nous poser la question, on va quand même nous prononcer et dire qu'il n'y a pas la complicité. Ça, c'était la conclusion de la commission. Donc, je brosse un peu tout cela. Mais en réalité, d'un génocide, génocide rwandais, était commandité, organisé par la France. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Puisque aujourd'hui, pour qu'il y ait génocide, c'est-à-dire quelque chose qui se prépare à l'amont, financé, organisé, et il y a des tâches. C'est la France qui est à la base de tout ça. Puisque si on lit, il y en a plusieurs commissions, il y en a plusieurs rapports, il y a les, même Survie a écrit. Même Survie a écrit. L'ONU a écrit. Il y en a beaucoup.
Il y en a énormément. On va y revenir. Alors, maintenant, en fait, on va décortiquer cette notion de complicité.
Ok.
D'accord ? Pedro, est-ce que tu peux envoyer le premier son ? C'est un extrait, du coup, d'une rencontre qui avait eu lieu le 10 octobre 2021 au mémorial de la Shoah. C'était, du coup, une discussion critique sur les rapports Duclerc et les rapports Muse, et qui analysait leurs conditions de production et, du coup, leurs limites. On va entendre François Graner, qui est membre de Survie, qui a fait un énorme travail sur l'implication de l'État français. Il a sorti un livre avec Raphaël Dorinan, autre membre de Survie, l'année dernière, qui s'appelle « L'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda ». On va l'entendre sur cette notion de complicité, et après, on en discute.
Okay. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une intention génocidaire pour être considéré comme complice d'un génocide. Hein. La jurisprudence de Maurice Papon le montre bien. On peut être condamné pour complicité de génocide sans intention génocidaire. Et donc, la conclusion du rapport Duclerc est donc qu'elle a été pilotée par l'Élysée ou créée par la Commission. Celle qui dit « il n'y a pas eu d'intention génocidaire chez les responsables français », tout le monde est d'accord à mon avis, donc ça implique qu'il n'y a pas eu complicité de génocide. Pour nous, cette conclusion est factuellement fausse et la Commission n'était pas habilitée à la prononcer. D'ailleurs, elle le reconnaît elle-même dans sa conclusion. Elle dit « nous ne sommes pas juristes, ce n'est pas à nous de nous prononcer sur la question de la complicité, mais comme on va nous poser la question, on va quand même se prononcer et on dit qu'il n'y a pas de complicité ». Et évidemment, c'est cette donc réponse à une question qui n'a pas été posée et pour laquelle la Commission n'est pas habilitée, que la presse a reprise en boucle, mais pour laquelle nous sommes en désaccord fort parce que nous pensons qu'il faut sanctionner et que les leçons doivent être tirées.
Donc voilà, on a bien entendu, en fait, la Commission Duclerc finit dans ses conclusions à dire « l'État français a des responsabilités lourdes et accablantes ». Et dans la suite, juste après, dit, mais il n'y a pas de complicité parce qu'il n'y a pas eu d'intention de la part de l'État français d'intention de commettre un génocide. Il n'y a pas eu d'intention génocidaire. François Graner, membre de Survie, et en fait tous les chercheurs, tous les spécialistes de la question reconnaissent que, bien sûr, on n'est pas en train de dire que l'État français a commis un génocide, a eu la volonté de commettre un génocide, a eu l'intention de commettre un génocide. On parle de complicité.
Mais je voulais ajouter une chose, que, donc cela veut dire que la commission des clercs a une partie prise. Ah oui ?
Explique.
Il y a une partie prise, puisque tout le monde le sait, puisque s'il n'y avait pas une complicité, je ne sais pas si je pars un peu vite, s'il n'y avait pas une complicité, mais comment la femme d'Abiarimana est-elle sortie, est-elle protégée, est-elle escortée pour quitter le Rwanda? Était protégée par les Français.
Il faut définir le mot complicité. Il faut définir le mot complicité de génocide. Oui. Et en fait, ce n'est pas nous qui la définissons. C'est les textes de loi.
Ok.
C'est la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de décembre 48, avalisée, écrite par l'ONU. En 48, suite au génocide des Juifs. Pas d'opinion personnelle à avoir là-dessus. Il y a une définition juridique. Ok ? Qu'on rappelle. Génocide, ce sont les actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. C'est ça la définition de génocide. Ce n'est pas une affaire d'opinion personnelle, c'est une définition juridique. La commission du clerc parle de complicité de génocide que n'aurait pas, qui n'aurait pas lieu dans ce cadre-là. Du coup, définissons maintenant complicité de génocide. Comme on l'a entendu dans la bouche de François Graner, on n'est pas en train de dire que l'État français a commis un génocide, on est en train de dire qu'il est complice.
Complice.
Complicité ne veut pas dire avoir eu l'intention de commettre un génocide. D'accord ? C'est pareil, ça, on vous renvoie au texte de loi, au texte de loi de la Convention dont j'ai parlé, voté en 48 par l'ONU. On vous renvoie à la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a été créé après le Rwanda en 94. En fait, les textes de loi sont là. La commission du clerc se prononce sur quelque chose qu'on ne lui demande pas et se trompe. C'est un parti pris, bien sûr, c'est un parti pris politique, commandité par l'État français pour en finir avec cette histoire et pour passer à autre chose. La complicité dans les textes de loi n'implique pas l'intention spécifique qu'a l'auteur principal de commettre le génocide, n'implique pas l'intention. François Graner le rappelle pour le cas de qui parlait de Papon. Il a été jugé, Papon, pour complicité de génocide. Il n'avait pas l'intention de commettre un génocide. Il le dit même, je ne savais même pas l'existence des camps d'extermination. Ok, on le croit. Allez, on veut bien le croire. Mais ça n'excuse pas sa complicité.
Sa complicité, oui.
Voilà, c'est les textes de loi. C'est tout. Alors, maintenant, on va parler de tous les rapports, de tous les travaux qui ont été faits depuis nombreuses années, en fait, sur cette question des génocides. Le rapport du clerc et le rapport rwandais qui est sorti, on l'a déjà dit, n'apportent pas vraiment d'éléments nouveaux. Il y a une reconnaissance officielle de l'État français, et ça, très bien. Ça, c'est très important. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes, peut-être, pour des actions de justice. Action de justice qui existait déjà, hein, portée par des associations qui se battent. Là, l'État français reconnaît officiellement sa responsabilité, très bien. Ça va ouvrir des portes aussi pour le travail des archives.
Mais c'est pourquoi jusqu'à présent, on peut dire que, bien qu'il y a plein de commissions qui ont fait sortir les rapports, mais le travail est encore à refaire.
À continuer.
Oui. Mais là, ce qui est étonnant, on ne sait pas si d'autres commissions vont retrouver encore les mêmes archives. Par exemple, les archives de 90, 94, là, est-ce que d'autres commissions auront accès à ces archives ? Ne sont pas détruites, ne sont pas cachées, ne sont pas déplacées. Alors, voyez-vous, plus le temps passe, plus la durée est longue, plus on camoufle d'autres archives, puisque une bonne investigation se base parmi tant d'autres données sur les archives. Mais si la commission n'a pas l'accès sur les archives, ça serait un peu difficile. Donc on va encore écrire, réécrire, réécrire de temps en temps, de temps en autre, l'histoire sur le génocide. Puisque c'est étonnant, les rapports de déclaré sortis, du coup, Kagame a applaudi.
Et ouais. Ça, c'est après, c'est une question de diplomatie.
De diplomatie.
Et moi, je voudrais revenir sur un fait qui est assez incroyable, quand même.
Oui.
Donc, des rapports sur le génocide et sur l'implication de l'État français, il y en a eu plein.
Oui.
Il y a eu des rapports sur le génocide, sur l'événement lui-même. Le premier, c'est le rapport de l'ONU qui sort en novembre 1994, tout de suite après. Il y a un rapport d'Amnesty International qui sort pareil en 1994.
Oui.
Il y a un rapport de la commission belge suite à une enquête parlementaire qui sort en 97. D'accord ?
Oui.
Ça, c'est sur le génocide. Sur l'implication de l'État français, pareil. Le premier gros travail qui sort, c'est un livre de François-Xavier Verchave, président de survie à l'époque. Il sort un livre qui s'appelle « Complicité de génocide » qui sort en octobre 94. Donc, tout est là déjà. Tout est là déjà. Avec cette notion de complicité déjà sur la table. Il y a le rapport qu'il laisse d'une mission d'information parlementaire en 98. Alors ça, c'est un rapport assez fou parce que dans tout le travail qu'ils font, c'est accablant. C'est accablant pour l'État français. La conclusion de ce rapport est contraire à tout ce qu'ils disent avant, en disant l'État français n'a pas commis de faute et n'est pas complice. Ça vient contredire tout ce qui est dit avant. Et pourtant, c'est une mine d'informations déjà incroyable. Il y a, après, un livre de Jean-Paul Gouteux qui sort en 2002, qui s'appelle « La nuit rwandaise, l'implication française dans le dernier génocide du siècle ». Tout est là sur la table. Tout est là sur la table. Il y a le rapport Mussio. On va y revenir. C'est sorti en 2008. Un rapport très, très, très important. Un travail d'historien fait par des Français et des Rwandais sur l'implication de l'État français. Et il est exemplaire, ce travail, parce que c'est vraiment un travail sérieux. À sa sortie en 2008, il a été complètement dénigré par les autorités françaises et par certains chercheurs et journalistes qu'on va appeler « chiens de garde » parce qu'ils se sont appuyés sur un document qu'avait utilisé le rapport, qui était un gros faux. Ils se sont fait manipuler, sûrement. Mais en fait, ils ont oblitéré 95% du reste du rapport, qui est accablant, on va y revenir. Il y a quelque chose de très important. En 2005, sort un livre qui s'appelle « L'horreur qui nous prend au visage, l'État français et le génocide du Rwanda ». C'est un livre de François-Xavier Verchave et de Laure Cottet qui suit une commission d'enquête citoyenne lancée par Survie, donc l'association qui se bat contre la France-Afrique, et une autre association, ERCRIJ, qui est l'association internationale de recherche sur les crimes contre l'humanité. Ils font une commission d'enquête citoyenne en 2004, suite aux insuffisances qu'il y avait eu dans le rapport de Kiles. Et alors là, c'est un travail énorme, énorme qui sort. Dans ce document, il y a un document dans ce rapport qui retrace un document accablant. Voilà. Ce document, il retrace l'entretien qui eut lieu à Paris le 9 mai 1994 entre le lieutenant-colonel des FAR, c'était les forces armées rwandaises, c'était l'armée du régime Habyarimana, c'est-à-dire du régime génocidaire.
Oui.
Donc, ce document retrace l'entretien entre le lieutenant-colonel des FAR, le 9 mai 1994, on est en plein génocide, hein, et le général Huchon, chef de la mission militaire de la coopération française, donc le général qui est parti coordonner l'intervention soi-disant humanitaire turquoise. Excusez-moi, c'est l'opération turquoise. Mais en fait, qui est une intervention militaire, entretien entre ces deux hommes-là. Que dit cet entretien ? Ils se mettent d'accord, ils discutent. Et leur conclusion, c'est ça. L'intention de la France de porter secours à ses alliés, c'est-à-dire le régime qui avait commencé un génocide. On va leur porter secours. Deuxième conclusion, la mise en place d'une liaison cryptée entre la mission militaire de coopération française et les FAR. D'une liaison cryptée. Pour pas être écouté, pour pas avoir de compte à rendre, pour cacher ce qu'on est en train de se dire, pour cacher le soutien de l'État français à le régime qui est en train de commettre un génocide. On est le 9 mai 94, le génocide a commencé 2 jours avec déjà des milliers de massacres. Troisième conclusion de ce document qui relate l'entretien, hein, la nécessité de s'installer dans une guerre longue mais aussi de renverser la mauvaise image donnée par les massacres. Donc là, on est dans une guerre d'image. l'État français, représenté par le responsable militaire envoyé.
Sous la terre.
C'est quoi leur objectif ? Renverser la mauvaise image donnée par les massacres. C'est pas hallucinant ? C'est pas arrêter un génocide. Non. C'est renverser l'image donnée dans les journaux, dans les télévisions, des massacres génocidaires.
Donc, en quelque sorte, c'est comme si camoufler un peu l'image, étouffer la réalité.
Quand il y a génocide, il y a tout de suite, ce qui se met en place par les penseurs et les organisateurs du génocide, se met en place tout de suite le mécanisme de négationnisme.
Si.
La France, soutien du régime, participe à ce mécanisme de négationnisme. On parle de tout ça parce que, en fait, on est face à quelque chose d'assez vertigineux. Dernier génocide du XXe siècle, l'État français est mouillé jusqu'au cou. Sa réaction, ça a été une réaction de négationnisme. Elle a mis des bâtons, l'État français a mis des bâtons après sur la justice, sur le tribunal international pour le Rwanda qui se met en place tout de suite après. La France fait tout pour que ce tribunal...
Il a étouffé ça.
Ne travaille pas les années 90-94, n'aille pas voir ce qui s'est mis en place. Elle a tout fait pour limiter, en fait, les pouvoirs du tribunal. Elle a protégé des génocidaires, elle les a accueillis, elle a donné leur droit d'asile, etc.
Ils sont pleins ici.
Comment ?
Ils sont pleins ici.
Exactement. Tout ça pour dire que ces rapports qui viennent de sortir de cette année 2021, c'est suite à une longue liste déjà de travaux où tout est sur la table. Donc, rien de nouveau sous le soleil. C'est très important, c'est quand même une date très importante. Mais en fait voilà, il y a dans le texte de François Robinet, dont on avait parlé au tout début, il finit par ça. Il finit par dire, en fait, voilà, cette séquence-là qui s'est passée entre la reconnaissance pour la première fois officielle par Macron des responsabilités de la France dans le génocide, et une espèce de rapprochement diplomatique qu'il y a avec le Rwanda, il faut pas que ce soit l'enterrement de la mémoire du génocide et que ce soit surtout une façon d'arrêter les travaux de la justice. En fait, ça commence. Il finit comme ça, François Robinet, dans son texte, « Nul doute que la mise à l'épreuve des responsabilités françaises sur la scène juridique ouvrirait une nouvelle étape dans la reconnaissance du rôle joué par la France au Rwanda entre 90 et 94. » C'est le début, en fait.
Oui.
Maintenant, c'est le surterrain de la justice que va se passer la lutte. C'est compliqué, hein. Ça va être très compliqué.
Très compliqué.
La justice n'est pas parfaite. Elle est instrumentalisée, etc.
Oui, mais il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, bien qu'il y ait tant de commissions, tant de rapports, mais jusque là, il y a beaucoup de questions qui restent en suspense, que les gens se posent, qui n'ont pas de réponses. Par exemple, sur l'attentat contre l'avion du président Habyarimana le 6, des petits détails, on n'en a pas. Il y en a sur la stratégie française durant le génocide. Il y a sur l'opération à Merlis. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'est ce qu'on craint que si, seulement si, qu'on ne retrouve pas, on n'a pas accès sur les archives, tant de questions n'aura pas de réponses. Tant de questions n'aura pas de réponses. Puisque déjà, en voyant comment la commission ou les rapports du clerc qui est sorti le 26 mars dernier, on sent que il y a beaucoup, comme la commission était financée, encadrée, tout et envoyée par le président Macron, on sent qu'en dessous de la carte, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pourquoi je répète encore que sur les archives, mais on saura tout de même, puisque on va suivre des détails, on suit jusqu'au bout. Même si on va pas, nous n'allons pas achever ce que les autres ont commencé, mais après nous, il y aura toujours des gens qui vont suivre la suite, puisque il y en a tant beaucoup de choses qui restent en suspense.
Il y a un gros travail qui commence, en fait. Il y a eu l'ouverture de certaines archives, mais il y en a qui sont restées fermées.
Oui.
Par exemple, une grande partie des archives François Mitterrand, voilà, qui ne sont pas accessibles.
Pourquoi ?
Il y a beaucoup de documents qui sont classés secret défense, secret confidentiel. Alors, on peut se poser la question, est-ce normal, en fait, que dans une soi-disant démocratie, il y ait des documents confidentiels que l'État français classe secret ? Il y aurait une politique secrète, ça veut dire.
Oui.
Officieuse. C'est ça que ça veut dire. Il y a une politique secrète et officieuse de l'État français.
Oui.
Par définition, la démocratie, c'est rendre compte de ce qu'on fait. C'est tout. C'est un débat. On discute, on propose des lois, et après on rend compte. On est responsable de ce qu'on fait. Une politique secrète et officieuse qui classe des documents confidentiels secret défense, on peut se poser la question si c'est vraiment le fonctionnement d'une démocratie.
Ça a toujours été en même temps.
Bah, la question, vit-on en démocratie, en fait ?
Ah, mais ça, on sait bien que non, Nico.
Et bah voilà, bah, soyons clairs, en fait. C'est juste qu'on se met d'accord après. On se met d'accord.
Oui.
On vit dans une certaine pseudo-démocratie.
Voilà.
Bon, bref. Je voulais. Tu avais commencé par dire la liste des questions qui restent, en fait. Puisque, on répète, le rapport du CLER, il est très important. Il reconnaît officiellement la responsabilité de l'État français. Il fait un travail très important. Il va regarder ce qui se passe entre 90 et 93. Mais il conclut que, par exemple, sur le rôle de l'armée française, il les exonère. Hein. En grande partie, il va pas pointer du doigt les responsabilités de l'armée et du système et de la chaîne de commandement. Le gros biais aussi de ce rapport, c'est qu'il va pointer une responsabilité individuelle de la part de François Mitterrand. Très bien, François Mitterrand a une responsabilité accablante. Mais en fait, François Mitterrand n'est que... Déjà, il n'est pas tout seul. Il y a tout un... Un groupe autour de lui, tout un fonctionnement.
Tout un système.
Après, en fait, c'est la Ve République hein, qu'il faut interroger. C'est cette espèce de monarchie présidentielle à interroger. Bon, bref, ça fait partie du problème aussi, hein, du gros problème. Mais en fait, c'est juste une facilité de désigner un responsable individuellement comme ça. On étouffe tout un tas de problèmes. Donc, il y a plein de listes, il y a plein de questions, pardon, qui restent en suspens. Tu as parlé de l'attentat d'Abiarimana. Mais en fait, ça, pareil, tout est sur la table. Tout est sur la table. Bon. Les enquêtes qui ont été faites par des journalistes, des historiens.
Les réarmements des militaires.
Le réarmement de l'armée rwandaise.
Financé, préparé par
l'armée française. Voilà. Il y a plein d'autres questions. Il y a l'après-Rwanda, l'après-génocide, comment on a soutenu et aidé les génocidaires à partir au Zaïre, en Tanzanie, comment on les a financés pour se réarmer avec l'idée qu'ils allaient reconquérir le Rwanda après le génocide, après qu'il y ait un accord quand même politique sur cette notion de génocide. Eh ben non.
Mais c'est ce qui fait que tous ces gens-là, tellement ils étaient armés, ils ont fui dans des frontières... dans des frontières entre Rwanda, République démocratique du Congo, République démocratique du Congo, Ouganda, République démocratique du Congo, Burundi. Il y en a les autres qui sont allés vers le sud là-bas avec le Centrafrique. Voyez-vous, c'est pourquoi vous allez constater qu'il y a dans tout... Tous ces partis-là, il y a l'insécurité jusqu'à présent. Tout est parti à partir de ces jeunes citoyens. Alors, c'est déplorable. Hein?
On reviendra sur notre émission sur toutes ces questions-là. On va finir par quelque chose. Je vais finir par lire un extrait du livre « La nuit rwandaise, l'implication française dans le dernier génocide du siècle ». Donc, c'est un livre de Jean-Paul Gouteux, sorti en 2002. Voilà ce qu'il dit, un petit extrait. En novembre 1994, on est après le génocide.
Après le génocide.
François Mitterrand n'invite pas les nouvelles autorités rwandaises au 18e sommet franco-africain à Biarritz. Donc, les nouvelles autorités rwandaises, c'est le FPR qui a mis fin au génocide.
Oui.
Qui a arrêté les massacres. Il ne les invite pas. Un an après, à la conférence annuelle des chefs d'État africains francophones au Bénin, le nouveau président de la République, Jacques Chirac, n'a pas invité lui non plus son homologue rwandais. Il a ouvert la réunion par une minute de silence à la mémoire de l'ancien président Habyarimana. Sans un mot pour les victimes du génocide.
Tu n'invites pas les autorités en place, mais tu fais une minute de silence en mémoire de leur chef qui n'est pas là, en vie.
Tu fais une minute de silence à la mémoire de l'ancien président Habyarimana, un des acteurs pendant des années d'une dictature ethnique au Rwanda qui a provoqué un génocide. La France n'honore que les dictateurs. On s'arrête là pour aujourd'hui sur le Rwanda, on y reviendra.
Ouais. Il y a déjà des belles émissions que vous pouvez retrouver aussi sur le site en ligne. Hein. Et je crois qu'il y en a eu 4 déjà sur le Rwanda qui sont disponibles.
6,
pardon. Vous allez dans le menu les émissions sur le site piquet.space, vous retrouverez un truc spécial Rwanda. Quoi.
C'est que le commencement du début du commencement.
C'est vrai que c'est inquiétant de voir quand même comment on se positionne en faveur de l'État dictatorial. Mais clairement, on se positionne. Ça. L'État français s'est positionné clairement.
C'est la défense des intérêts de la France-Afrique. Hein.
Bah, oui,
c'est aussi simple que ça. Les intérêts économiques et politiques, les connexions avec nos politiques.
On en a déjà parlé sur l'affaire du Rwanda. C'est pas tout à fait comme ça, en fait, puisqu'il n'y a aucune richesse du pays économique.
Bah, oui, c'est ça.
C'est une vision encore beaucoup plus basique, néocoloniale. Raciste, une vision de l'influence francophone, l'influence de la culture française, voilà, contrôler une sphère de l'Afrique face à l'ennemi, entre guillemets, anglo-saxon. Donc on n'est même pas dans des logiques là en ce qui concerne le Rwanda, hein. C'est pas vrai ailleurs.
C'est pas pour des ressources.
Là, c'est pas pour des ressources. Hein. C'est une espèce de vision complètement coloniale. Hein. Mm. Mais partagée par tous les présidents depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Pour juste parler de l'après-Seconde Guerre mondiale. Hein.
Ok, pour terminer, je ne sais pas, je voulais ajouter un mot, puisqu'on parle de l'Afrique. Je voulais dire qu'on est de cœur avec le peuple éthiopien, puisque ouais. Là-bas aussi...
Oui, il se passe des trucs graves en ce moment.
Il se passe des trucs graves... Donc, on dit que prochainement, dès qu'on va, on a déjà commencé à arrêter les données, au moment opportun, dès qu'on aura toutes les données possibles, on va se pencher sur l'Éthiopie.
Sur l'Éthiopie et le cas érythréen, quoi.
Oui,
ce qui se passe en Érythrée, quoi.
Peut-être.
Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi ce qui s'y passe, l'Érythrée est donc une zone de l'Éthiopie qui serait un peu autonomisée. Enfin, il y a une espèce de pouvoir en place qui est contre le gouvernement éthiopien. Gouvernement éthiopien tenu par un prix Nobel de la paix qui a déclenché la guerre, finalement, après avoir
une bonne renommée, être...
Il déclenche la guerre contre l'Érythrée. C'est fort. Hein,
donc
c'est...
on va y revenir.
Ouais, parce qu'en attendant, bah, y a l'Érythrée, donc une zone qui dépend fortement de l'aide alimentaire. Il y a une seule route pour aller en Érythrée et elle est complètement coupée depuis plusieurs semaines.
Oui, c'est le peuple qui souffre.
Voilà, ils ne reçoivent plus d'aide et la plupart des camions en plus qui empruntaient cette route, si j'ai bien compris, étaient conduits par des chauffeurs, enfin certains érythréens, et le gouvernement éthiopien arrête ces chauffeurs carrément. Donc non seulement la route est coupée parce qu'il y a la guerre, mais en plus on arrête les chauffeurs routiers, quoi. On les met en prison.
Oui, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit on m'emportait avec mon confrère Afrique. On va y revenir.
On y reviendra. On reviendra, je pense, beaucoup cette saison sur la France-Afrique.
OK.
Puisqu'on parlera aussi on reparlera du Burkina Faso et du procès des assassins de Sankara. On en a déjà parlé, mais on va tenir au courant. C'est un procès historique.
Ça va être longtemps.
Très important. Et on fait une petite pause.
Ouais, pause musicale. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as prévu, Pedro? Il paraît que tu prends le pouvoir sur la snub encore une fois.
Big up la snub. On va s'écouter un petit Backlash Blues de Nina Simone.
Super
et
morceau.
Paris pas cher des vieilles salopes.
Allez, à tout à l'heure pour la deuxième partie de cette midinale.
Like Odetta said last night, if you don't get loose now, you better forget it, 'cause you ain't got much time. None of us do. I think the Rolling Stones say we got 5 years. Tries to find a little job to earn a little cash. All you got to offer her is your stupid, same, stupid, old mean backlash. But the world is big. I saw it big and bright and round. And it's full of other folks like me who are Japanese, black, and beige and brown. Oh, Mr. Backlash, you're not the only ones. That's what you've been thinking. I'm gonna leave ya. I'm gonna leave ya. I'm gonna leave you with the blues. Oh, yeah. Mm-hmm.
painter, Langston Hughes, died. He told me many months before. He said, Nina, I know it's been hard for you, baby. I know how hard it's been for you. They never wanted to accept you. Black. You see that brother down there looking up the ceiling? And white, they're easier. The blacks, never, never. Yeah, I'm gonna tell you the truth tonight. He said, Nina, keep on working till they open up the door. You know who you are, and you know you either been here or you never been here before. Don't make no difference. And when they open up the door, make sure you tell them where it's at, so they'll have no other place to hide behind all them strange hats.
Quand je me balade à Pigalle et que je vois tous ces sex shops ouverts, je ne peux m'empêcher de m'arrêter. Essayez tous ces nouveaux objets, poupées gonflables, foufou en plastique, comme Michel géant, vivre ma soeur super puissant, combinaison latex, menottes et fouet, calcule la clou, il me faut tout, je vais un fou, par ici mesdames, gagne un banane, c'est l'habit du bon goût, de passer à chatou, suivez qui mais sur Paris, vous en mettra plein les yeux, cette ville regorge d'endroits merveilleux de Saint-Denis. M'empêcher de m'arrêter. Essayez tout ce que tu vas me proposer. Fellation du lieu avec toi dans le cul. Toucher rectal, déchirer j'adore. Ce soit des riscopes, des polacs, des blacks. Peu importe le coup. Je ne peux m'empêcher de m'arrêter pour leur taxer de quoi me défoncer.